Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Avec au sommaire de cette émission du jour, l'Olympique de Marseille, 7e de la Ligue 1, après sa victoire hier soir sur Bordeaux. Petite victoire dans un contexte qui avait tout d'un piège, dont l'OM des jeunes et des remplaçants s'est sorti. Les Olympiens vont-ils enfin rebondir en championnat ? Adrien Rabiot, l'Arlésienne du PSG, le milieu de terrain pourtant talentueux, a disparu de l'équipe du Qatar, cantonné même à la réserve ces derniers temps. N'est-il pas l'heure de le réintégrer alors que le mercato d'hiver est fini ? Les médias sont du côté du jeune joueur apparemment, alors que les noms de Rabiot et Diarra sont sur la liste renouvelée des joueurs de la Ligue des Champions. Bienvenue à un invité du jour aujourd'hui qui est là dans notre studio, Corentin Martins, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue donc au sélectionneur de la Mauritanie, celui qui accompagnera les Moravitoun pour la première fois dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en Égypte à partir du 21 juin et vous allez nous raconter comment s'est construite cette qualification. C'était dur ? Éprouvant ?
Aucun match n'est facile, donc pour nous encore plus, mais en tout cas ça a été un plaisir de pouvoir se qualifier pour la première fois.
Voilà. On va y revenir, on y reviendra aussi avec l'aide de Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un camarade avec qui nous étions la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Nouakchott.
C'était ça remonte.
Un peu plus d'un an, oui. Malheureusement. Philippe Doucet y était plus récemment d'ailleurs. Bonjour Philippe.
Oui, j'ai eu la chance de voir Corentin. Et là, j'ai la chance de voir Madame Annie, donc c'est formidable. Voilà. Le doublé.
Et puis Patrick Julliard est là aussi du site FootAfrica 365. Bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Posez les questions vite là, on va aller fêter nous.
Ouais. On va fêter,
Calmez-vous, première question. Franchement, sans ce public ce soir, on ne l'aurait pas fait. Ils nous ont soutenus de la première à la dernière seconde, même quand on a été mené très rapidement. On a toujours senti le public derrière nous. Et c'est ce qui nous a poussé. C'est pas vrai qu'on a réussi à marquer dans les dernières minutes. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées. Cette victoire, c'est la vôtre.
C'est le premier historique pour la Mauritanie d'aller à la CAN. Maintenant, on va bien se préparer, Inch'Allah, pour cette CAN. En tout cas, cette date, elle a resté notée et gravée, Inch'Allah.
Vous méritez qu'on vous donne toute la Mauritanie.
Un joli document sonore, c'était le 16 novembre dernier, c'est cela, Corentin Martins ?
Le 16 ou 18 ? Je ne sais plus si c'était le 16 ou...
Alors je crois que c'était le 16, en tout cas selon les notes que j'ai trouvées, c'était le 16 novembre 2018, à Nouakchott.
C'était le 18, c'était le dimanche.
Ah c'était le dimanche, alors 18.
Ça semblait bien, mais bon.
Mais c'était le week-end du 16 au 18.
alors 2016 du coup, non.
Et c'était donc le moment de la qualification de cette équipe. Racontez-nous, à Nouakchott, ça a été l'ébullition quand on a une qualification historique.
Oui, bien sûr qu'après ce match-là, ça a été magnifique, mais c'était, j'ai envie de dire que c'est le plus difficile, c'était avant ce match. C'est la préparation de la semaine. Tout le monde nous voyait gagner face au dernier de la poule.
Le Botswana.
Et c'est ça qui était le plus difficile, c'est de persuader, de dire aux joueurs que rien n'était fini encore et qu'il fallait rester concentré. Et ils l'ont été. Et à la fin, c'est vrai qu'on a eu une belle joie, beaucoup de fierté pour les joueurs, le staff, mais surtout tout le peuple mauritanien. C'était extraordinaire la communion avec tous les Mauritaniens.
Est-ce que c'était aussi une ambition pour vous de le faire avant la dernière journée, puisque on le dit, il reste encore une journée un match pour vous à Ouagadougou, mais il vous reste encore une journée dans ces éliminatoires et finalement cette inédite qualification s'obtient avant la fin.
On savait qu'en gagnant contre le Botswana, on était qualifié. Donc cet objectif-là, il fallait qu'on réussisse à y parvenir, à gagner ce match, parce que aller gagner à Ouagadougou, c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, on voulait faire la fête devant notre public pour la qualification. On a eu la chance et la qualité pour le faire. Et encore une fois, ça a été magnifique pendant toute la nuit dans la ville, dans le pays. Où les gens m'ont dit dans les jours qui ont suivi, ils n'avaient jamais vu autant de voitures dans les rues que ce soir-là.
Et Corentin Martins, le fait d'être ensuite sacré par la Confédération africaine de football, par la CAF, à Dakar récemment, meilleure équipe nationale d'Afrique, évidemment en écho à cette qualification historique, mais qu'est-ce que ça vous a fait à vous et à la fédération d'une façon générale, cette reconnaissance sur le continent ?
Ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de fierté parce que c'est beaucoup de travail fait par rapport à que ce soit de la part de la fédération, du président, du staff, des joueurs. Donc c'est une sacrée reconnaissance et ça doit nous donner encore plus de confiance pour aller de l'avant. Même si peut-être qu'aujourd'hui tout le monde voudra battre la Mauritanie parce qu'on est première sélection d'Afrique en 2018, mais en tout cas ça fait plaisir et il faut qu'on continue de travailler, d'avancer.
Franck, vous avez une question ?
Pas une question, mais une remarque, parce que oui. Comme Corentin Martins, c'est un technicien humble, je crois qu'on peut tous en témoigner. Il a la modestie de ne pas rappeler comment il a été, un peu brocardé, il a été non pas chahuté, mais à la fin du CHAN au Maroc, où vous aviez été éliminé dès le premier tour avec 3 défaites, mais pourtant avec du jeu pratiqué, une belle équipe, il y avait déjà des gens qui réclamaient votre tête, qui disaient « bon, ça sert plus à rien, qui s'occupe des locaux, etc. » Aujourd'hui, il y a cette reconnaissance et tout le monde... En fait, c'est un peu les vainqueurs, je dirais, d'après qualification, quoi. Ils se montrent maintenant que vous êtes qualifié. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'apporter maintenant en plus après cette qualification? Les objectifs, c'est clairement de sortir des poules, j'imagine?
Oui, bien sûr. On est content d'y être déjà, mais bien sûr que maintenant, en commençant cette compétition, on va vouloir aller plus loin. Il faut qu'on ait de l'ambition. C'est 3 matchs, et bien sûr qu'on aimerait, d'abord passer les poules, et puis après, sur un match, tout peut aller très vite. Mais on va attendre de voir le tirage au sort, et qui va déterminer un petit peu nos ambitions, même si les ambitions restent les mêmes, que ce soit contre, j'ai envie de dire, contre Madagascar ou contre Sénégal. Donc on voudra gagner nos matchs aussi, et il faudra qu'on démontre de la qualité, mais aussi beaucoup de travail encore pour préparer ces matchs-là.
Vous aimeriez avoir le Sénégal dans votre poule ?
Je l'ai lancé comme ça.
Sur les réseaux.
Non, c'est pas ça du tout. Non, parce qu'on nous a proposé, on avait la possibilité de jouer un match amical contre le Sénégal après au mois de mars, là, après le Burkina. Et donc, je dis que ça m'intéressait de jouer contre le Sénégal parce que c'est une grande nation d'Afrique et qui vient de jouer la Coupe du Monde. Et on risque de jouer contre ce genre d'adversaire à la CAN, quoi. Donc, ça, c'est une bonne préparation.
Patrick Julien.
Oui, Corentin, d'abord, toutes mes félicitations pour cette qualification historique. Est-ce qu'on peut dire que la Mauritanie est un petit peu comparable à l'Islande en zone Europe, qui avait décroché sa première qualification pour une phase finale avec le passage à 24 équipes, qui est aussi un pays qui était jusqu'alors peu réputé pour les performances de ses joueurs et de ses clubs, et qui a su se structurer par un travail patient d'éducation des jeunes, de construction de terrains, de petites infrastructures, qui n'a pas eu une vision de gigantisme avec des grands stades et rien derrière, mais tout le contraire. Et est-ce que, à quel point, disons, ce travail patient de la fédération vous sert-il aujourd'hui pour faire progresser cette équipe?
Si on veut comparer l'Islande avec la Mauritanie, on ne va pas comparer par la météo.
Ah non, ça non. Ça non.
Ça c'est exclu.
Mais non, c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu par rapport au peu d'habitants qu'il y a dans les deux pays. C'est vrai que la Mauritanie, c'est un grand pays, mais qui est peu peuplée, il n'y a que 4 millions d'habitants à peu près, donc c'est vrai que les études ou qu'on peut, enfin, en tout cas que la Fédération mauritanienne ou par le biais de du DTN, on peut essayer d'aller piocher un peu à droite à gauche, c'est exemple sur l'Uruguay, sur l'Islande, c'est des petits pays pas très peuplés, mais par contre qui ont beaucoup de réussite en termes sportifs, donc aujourd'hui, c'est vrai que la fédération travaille depuis quelque temps déjà à structurer, que ce soit sur le plan infrastructure dans le pays, en ayant des terrains, mais aussi à mettre une organisation en place sur le plan des différents championnats, parce que je le dis souvent, mais moi quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y avait uniquement un championnat de première division. Aujourd'hui, il y a un championnat de première division, deuxième division, U19, U17, U15, et en féminine, il y a un championnat de première division et U15, donc il y a eu beaucoup de travail. Donc par rapport à cette organisation-là, ça va déboucher automatiquement sur des joueurs de meilleure qualité, parce que si les jeunes jouent beaucoup de matchs, ils vont progresser et ça pourra servir pour augmenter le niveau du championnat local et puis aussi que la sélection, les différentes sélections puissent profiter de tout ce travail-là.
En tout cas, l'Islande, ça avait été une belle entrée en matière dans l'Euro. On se souvient qu'ils étaient arrivés en quart de finale et puis ils avaient enchaîné sur une Coupe du Monde en Russie. Philippe Doucet.
Oui, plusieurs hommages. Le premier, c'est que je pense que vous faites mieux que l'Islande et l'Uruguay quelque part, puisque la Mauritanie, il y a plein de joueurs du pays, enfin plein de joueurs qui évoluent au pays, qui sont dans l'équipe nationale et qui accèdent. Donc quelque part, le travail qui est réalisé est valorisé encore plus. Deuxième hommage, Corentin ne ramène jamais la couverture à lui. Il est assez extraordinaire parce que bon, on connaît plus d'un sélectionneur, y compris des Français, il faut bien le dire, qui quand ils arrivent à un résultat s'attribuent à la fois la sélection A, mais ils disent qu'ils sont aussi un peu DTN, qu'ils sont un peu ceci, un peu cela, et qu'à la limite on a l'impression qu'ils ont fait l'ensemble du travail à lui seul. Et je trouve que Corentin est extraordinairement modeste, puisqu'à chaque fois qu'on l'interroge, ce qui a été mon cas quand on s'est vu à Nouakchott, ramène beaucoup de choses au travail qui est fait par la fédération derrière. Et qui effectivement a largement soutenu le travail qu'a pu faire Corentin, lui, en tant que sélectionneur. Et je trouve que c'est intéressant. Et puis le dernier hommage que je voulais rendre, c'est que on attribue beaucoup la qualification de la Mauritanie au fait de passer à 24. Or, la Mauritanie, elle est première de son groupe. Elle est en position de terminer première, donc et comme l'Islande d'ailleurs, même si ça avait été 16 qualifiés à l'Euro 2016, à l'Euro 2016, l'Islande aurait été qualifiée et la Mauritanie, jusqu'au dernier match, en tout cas, on ne sait pas encore tout à fait l'issue parce qu'il y aurait eu des barrages ou autre, mais en tout cas, la Mauritanie, pour l'instant, elle est un vrai qualifié pour la Coupe d'Afrique et même si on était à 16, elle serait en très très bonne position pour se qualifier. Il faut le rappeler.
Corentin Martins, vous voulez répondre à Philippe?
Oui, déjà remercier Philippe. Déjà le remercier, mais bon, il me connaît depuis très très longtemps parce qu'on se côtoie depuis un certain nombre d'années déjà quand j'étais joueur, donc c'est vrai que j'étais quelqu'un de modeste quand j'étais joueur. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais il faut aussi, dire les vérités. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe uniquement des sélections qui m'ont été données, que ce soit les locaux, pour le CHAN, ou là, pour la sélection A. Donc, je m'occupe de mon équipe. Il y a toute une organisation autour qui s'occupe du reste, des placements. J'en discutais déjà avec d'autres sélectionneurs qui eux s'occupaient même des déplacements. Moi, j'ai pas ça à faire. J'ai une personne qui s'occupe de ça. Et c'est vrai que ça, c'est du luxe. Et pour nous, c'est important de pouvoir, en tant que sélectionneur, pouvoir se concentrer uniquement sur les joueurs et les matchs à préparer. Et comment arriver pour gagner les matchs.
Ça vous donne des bonnes conditions de travail, mais justement, vous venez de renouveler, enfin, la fédération a renouvelé son contrat avec vous. Est-ce que vous êtes là depuis 2014? Est-ce que pour vous, c'est aussi une des clés peut-être de réussir avec la sélection et notamment réussir ce premier objectif qui était de l'emmener dans une CAN? Est-ce que ça vous aide de travailler sur la longueur? Parce qu'on voit dans les autres sélections, dans d'autres pays, où les sélectionneurs, parfois même quand ils ont gagné un trophée, c'est pas pour ça qu'ils restent.
Je dirais que ça dépend à la fois du sélectionneur et puis des dirigeants ou du président de la fédération. On a tendance à dire que quand il y a une continuité dans le travail et de la sérénité, il y a souvent des résultats au bout. C'est vrai que ça, on l'a prouvé cette fois-ci. Quand j'avais signé le premier contrat, à la fin donc de la durée du premier contrat en 2016, j'avais dit au président, on s'est pas qualifié. C'est vrai qu'on a toujours les objectifs de se qualifier pour le CHAN, comme moi j'avais les locaux, et pour la CAN. Lors de mon premier contrat, on s'est ni qualifié pour le CHAN ni pour la CAN, mais on est tombé sur les équipes qu'il fallait pas, le Cameroun qui a gagné par la suite, et puis le Mali pour le CHAN qui avait été vice-champion. Mais j'avais dit au président, voilà, moi ça m'intéresserait bien de poursuivre, parce que je sens qu'on n'a pas encore optimiser tout le potentiel de l'équipe. Je sens qu'on peut réussir à se qualifier pour le CHAN et pour la CAN. Bon, je suis content de ne pas m'être trompé, mais parce qu'on y a réussi, mais c'est aussi que le président m'a fait confiance et je le remercie encore et à chaque fois. Et on peut poursuivre et aujourd'hui on a une bonne relation et c'est ce qui fait aussi notre force. Le président, il y a une certaine confiance entre lui et moi et on avance et c'est important et c'est vrai que ce soit moi de mon côté de me dire tiens j'aimerais bien aller ailleurs mais on a tendance à dire qu'on ne sait pas si la pelouse est plus verte ailleurs que et pour le président c'est sûrement la même chose, il ne sait pas s'il retrouvera la même personne ou les mêmes résultats, donc voilà, on poursuit tranquillement.
Vous aviez succédé à Patrice Neveu qui avait déjà lui commencé un certain travail parce que la qualification la première au CHAN, je me souviens vous nous l'aviez raconté Franck,
j'ai eu la chance de suivre cette sélection à l'époque de Patrice Neveu, donc qui est le prédécesseur de Corentin. J'étais allé les voir en stage, en fait, dans les pays du Golfe, en 2013. Avant 2013, personne ne parle de la Mauritanie, du football mauritanien.
C'est vrai qu'un des premiers qui en parlait dans Radio
Foot,
c'était vous.
Personne ne parle des clubs, ils jouent quasiment pas de matchs, ils ont pas de matchs amicaux ou peu. Je crois qu'ils avaient eu un match contre la Palestine à une époque, au début des années 2010, mais ils jouent très 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 peu. Et il y a cette qualification que vous évoquez au CHAN, la première en Afrique du Sud. Elle est consécutive à cette génération qui était mise en place, d'où irait, je crois, un ou deux joueurs, notamment Souleymane, le gardien de but, Souleymane Diallo, Brahim. Mais sinon, pour le reste, tout a été renouvelé. Et c'est là toute la force, et je trouve, de Corentin aussi et de son encadrement technique. C'est-à-dire qu'il a trouvé une situation, mais il ne s'en est pas contenté. Il est allé voir à l'extérieur, chercher les talents localement, dans les pays d'Afrique du Nord où il y a quelques joueurs, et puis ceux qui sont binationaux, il y en avait beaucoup par chez nous, et vous avez vraiment réussi à renouveler et à faire en sorte que cette équipe devienne aussi compétitive, mais les locaux étaient bons au Maroc, ils étaient bons, simplement il y a un manque d'expérience, et ça les gens l'oublient, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ça, il y a un gros travail, et c'est le début d'un cycle, on a l'impression que c'est la fin, mais pas du tout, c'est le début de, je dirais, c'est la tête de la comète là qu'on voit.
Et d'ailleurs, Corentin Martins, votre équipe est-elle composée plus de binationaux, comme beaucoup de sélections africaines, ou vous trouvez aussi dans le championnat local qui existe donc, et je pense au FC Nouadhibou, dont on avait parlé et rencontré les dirigeants en Mauritanie, qui l'année dernière avait remporté le championnat.
Alors, j'aime bien comparer un peu ce que par rapport à mes débuts, quand je suis arrivé en 2015, la sélection A composée à peu près était composée de 6 ou 7 joueurs expatriés. Et aujourd'hui, 4 ans après, c'est l'inverse. On a à peu près 16 ou 17 expatriés pour 6 ou 7 locaux. Et parce que ces locaux qui étaient à l'époque, il y a 4 ans, aujourd'hui se sont exportés, sont partis ailleurs, parce qu'ils ont montré qu'ils avaient des certaines qualités. Et aujourd'hui, le footballeur mauritanien est vu d'un autre œil, et d'un œil où vraiment il y a de la qualité, où il peut apporter quelque chose.
Et du respect.
Oui.
Parce que c'est ça dont a souffert le football mauritanien, il le disait, le président Yaya. La Mauritanie, par son football, par son sport, était pas du tout respectée, les gens se moquaient. Oui, vous allez dans les pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest, tout le monde rigolait.
Ouais, c'était le parent pauvre un peu.
Bah, pire que ça, mais tout le monde rigolait. Maintenant, il y a le respect.
Il y a aussi, comme l'a dit Franck, il y a des joueurs qui sont un peu expatriés localement. Je pense à notamment Ismaël Diakité qui avait marqué le but de la qualification, qui joue en Ligue 1 tunisienne.
Le doublé ce jour-là.
Les deux même.
Mais le 18 novembre, c'est ce que nous rappelait la Sana Camara qui écoute l'émission.
Je crois qu'il joue à Tataouine, si je ne me trompe pas. Et c'est un exemple de joueur qui a saisi sa chance et qui peut-être dans un ou deux ans sera en France ou en Belgique ou dans un championnat européen. D'ailleurs, j'ai une petite question, si je peux un peu peut-être anticiper sur la suite. Vous aviez dit sur cette au micro de RFI après la qualification que vous étudiez la possibilité peut-être d'apporter quelques retouches au groupe et vous aviez lâché quelques noms dont deux s'appellent Camara, Binguru le gardien de but et Aboubakar qui vient d'être transféré de Fulham en Turquie parce qu'il a eu quelques petits problèmes disciplinaires. On m'a également parlé de Sadat Youb, le milieu offensif de Nîmes qui est d'origine sénégalaise et mauritanienne. Alors est-ce que vous confirmez qu'il y a des contacts avec ce joueur pour un éventuel renfort de l'équipe nationale?
Ouais, je vais confirmer les contacts que j'ai eus avec Binguru et Aboubakar Camara. Je les ai eus il y a pas très longtemps encore, donc c'est vrai que j'aimerais renforcer. Je suis toujours un peu entre les deux où il y a un groupe qui s'est qualifié pour la CAN. On va pas tout changer non plus, mais j'aimerais apporter une plus-value à ce groupe et pouvoir le renforcer avec 2-3 joueurs de plus. C'est vrai que Binguru et Aboubakar, je trouve que c'est deux joueurs qui pourraient nous apporter beaucoup. Mais je veux aussi que ça vienne d'eux, quoi. Je veux aussi qu'ils aient envie de venir défendre les couleurs de Mauritanie. Et là, on verra dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que s'il y a personne qui nous rejoint au mois de mars pour le dernier match de qualification pour le Burkina, je prendrai personne de plus pour aller à la CAN.
D'accord.
Corentin Martin, une chose encore sur l'Égypte. Ça vous fait rêver l'Égypte?
Le football me fait rêver. Donc, je pense que...
L'Égypte en plein été, on va dire, du 21 juin au 19 juillet. Vous craignez la chaleur, vous craignez ce moment pour une compétition comme la CAN?
On sait bien que quand il y a des fortes chaleurs, c'est toujours plus difficile de faire du sport et du foot. Mais ce sera valable et vrai pour toutes les équipes. En Mauritanie, il fait aussi très chaud l'été, donc nos joueurs sont plus ou moins adaptés à ça. Mais même s'il y a quelques joueurs qui sont nés en France. Mais on va surtout. Moi, je ne vais pas penser du tout à ça. C'est les mêmes conditions pour tout le monde. On va surtout s'attacher à bien se préparer, à bien travailler pour arriver vraiment en forme pour lors du premier match de cette CAN.
Et selon vous, c'était une bonne idée de décaler cette compétition après le Ramadan, vous qui avez une équipe d'une République islamique, mais aussi évidemment en Afrique, beaucoup de joueurs qui respectent ce moment de jeûne. Est-ce que ça se termine début juin? Est-ce que autour du 21 juin, comme a été fixée la date, ça peut aussi aider les équipes et les joueurs?
Oui, je trouve que c'est bien parce que ça permettra aussi aux différents organismes de se réadapter, d'éviter certaines blessures aussi. Quand on ne peut pas s'alimenter ou surtout boire pendant une journée, quand on fait du sport de haut niveau, c'est toujours plus difficile. Donc je trouve que c'est très bien que ça ait été repoussé pour que tout le monde soit à pied d'égalité.
Alors, Corentin Martins, vous êtes donc le sélectionneur de cette équipe de Mauritanie, mais avant, et là on s'adresse aux plus jeunes, on a des stagiaires de 3e actuellement qui sont à Radio Foot et qui donc peut-être ne connaissent pas, eh bien, Corentin Martins, le joueur. Hugo, ça a été un très bon joueur, Corentin Martins, quand il était en Ligue 1 dans les années 90-2000.
Exactement, un très bon joueur, on va y revenir. Alors d'abord, je vais vous décrire, ça vous dérange pas, Corentin Martins, parce qu'on est à la radio, donc les gens ne vous voient pas. Alors ne le prenez pas mal, mais vous êtes un petit format. Vous êtes toujours plus grand que moi, mais vous êtes un petit format.
Je l'assume.
Vous approchez la cinquantaine, si c'est pas indiscret, et vous vous portez plutôt bien, notamment capillairement parlant, à l'arrêt au milieu.
Pourquoi vous dites ça?
Absolument impeccable.
Pourquoi vous dites ça?
Un peu à la Hervé Renard. Un peu à la Hervé Renard. L'arrêt au milieu, un autre français en réussite sur les bancs de touche africains.
Moi, je mettrais la chemise blanche.
Exactement, ça vous irait très bien, j'en suis certain. Et vous avez un autre point commun avec Hervé Renard, c'est que quand vous étiez joueur, vous avez côtoyé un certain Zinedine Zidane. Renard, lui, l'a côtoyé à Cannes, en club. Vous, c'était en bleu, en équipe de France. Et l'anecdote est connue, en tout cas de ceux qui ont suivi le football à cette période-là. C'est en vous remplaçant lors d'un match amical face à la République tchèque en 1994 que Zinedine Zidane, Zizou, a fait ses premiers pas en sélection. C'était le 17 août 94, très exactement, à Bordeaux. La France est alors menée 2-0. Le petit nouveau inscrit un doublé. On connaît la suite. On a eu beaucoup de nouveaux Zidane ces dernières années. Vous étiez plutôt l'un de ses prédécesseurs et l'un de ses contemporains. Un autre numéro 10, élégant, technique, spectaculaire. 14 sélections en bleu pour vous. En tout, vous ratez le train 98, mais vous êtes du voyage en Angleterre pour disputer l'Euro 1996 avec à la clé une demi-finale. 96, c'est un très bon cru pour vous, puisqu'après des débuts à Brest, votre ville natale, après une demi-finale de Coupe de l'UEFA en 93 avec Auxerre, après une Coupe de France remportée en 94 avec Auxerre, vous remportez le doublé Coupe Championnat encore et toujours avec Auxerre sous les ordres de Giroud. L'été 96, c'est aussi l'heure du départ pour l'Espagne, direction La Corogne. À l'époque, La Corogne, c'est un club très ambitieux en Liga, qui remporte même parfois le titre de champion. En Galice, vous partagez le haut de l'affiche avec un autre grand numéro 10 de mon enfance, le Brésilien Rivaldo, champion du monde, lui aussi en 2002. De retour en France, vous passez plusieurs années à Strasbourg, où vous soulevez notamment la Coupe de France en 2001. C'est-à-dire que vous aviez un certain Habib Bey pour protéger vos arrières à l'époque. Vous raccrochez les crampons au cœur des années 2000 et rapidement, vous rentrez à la maison, là où tout a commencé. À Brest, vous êtes directeur sportif, mais vous dépannez aussi régulièrement sur le banc de touche. Alors là, l'histoire se termine plutôt mal en 2013 avec une relégation en Ligue 2 et une douloureuse série de défaites. Mais dès 2014, on en a parlé, vous rebondissez avec une première expérience en Afrique. Là, le choc thermique, il était pas mal aussi, hein, de la Bretagne à l'Afrique. Et alors, si Zidane, lui, il brille sur le banc du Real Madrid, vous, c'est en Mauritanie que vous réalisez des prouesses et l'histoire n'en est pas moins belle. On en a parlé longuement juste avant et clairement, d'un point de vue capillaire, c'est probablement lui qui aimerait être à votre place aujourd'hui.
C'est pas mal la comparaison.
C'est pas tiré par les cheveux ton histoire.
Parfait, je vais chercher une chute justement.
Il faut aussi préciser que lorsque Corentin était joueur, on l'appelait plutôt Coco. Oui, surtout c'est Giroud qui l'avait appelé Coco et depuis c'était resté.
Non, c'était pas Giroud, ça vient de depuis mon enfance, mon premier club où je devais avoir 6-7 ans.
Ah d'accord.
Donc c'est très loin.
Mais souvent les gens ne connaissaient pas le vrai prénom, ils disaient Coco.
Oui, c'est vrai.
Corentin Martins, pour aussi illustrer votre carrière, on a retrouvé un document sonore. David Finzel s'est plongé dans les archives liées à votre carrière. Écoutons ce moment historique pour le club d'Auxerre.
Avec Coquard qui s'enfonce ici, qui va peut-être redonner immédiatement, il préfère
Couffrant. Là, et oui. Couffrant et but de Martins, je vous l'annonce.
Attention à Martins, c'est ce coup franc et but de Corentin Martins, ce superbe coup franc enveloppé qui a laissé Menzo complètement figé sur sa ligne. Deuxième but en Coupe de l'UEFA, deux en championnat, deux passes décisives. Superbe saison que fait l'ancien Brestois.
Alors superbe coup franc. Regardez bien, le ballon est bien enveloppé. Menzo ne bouge pas et le ballon va directement dans la lucarne. Magnifique coup franc.
Annoncé. Pourtant, il n'en a pas marqué quand même des centaines pour l'instant des coups francs. Par contre, sa qualité de frappe, elle est reconnue.
Elle est reconnue, sa qualité technique est reconnue. Et on passe de 1-0 avec une équipe moribonde de la Auxerre à 2-1.
On rafraîchit la mémoire un peu à tout le monde. Philippe Doucet, c'était vous qui décriviez ce...
Un petit jeune.
Ce coup franc.
Oui, il y avait un petit jeune, Philippe Doucet, puis il y avait un autre petit jeune qui débutait au micro qui s'appelait Michel Platini. Vous l'avez peut-être reconnu, non? Non. Vous l'avez pas reconnu?
Non, mais non. Votre voix a moins changé que la sienne.
C'est Michel Platini qui annonce le but.
Absolument,
ouais,
absolument.
C'est incroyable. Et Corentin Martins, c'était donc le 3 mars 1993. C'était contre l'Ajax Amsterdam.
C'était contre l'Ajax, en quart de finale, oui. Ouais.
Et vous aviez renversé la tendance ce jour-là, puisque vous étiez mené au score et vous aviez fini par éliminer l'Ajax sur le score de 4-2.
Exactement.
Ça fait des beaux souvenirs, tout ça.
Très beaux souvenirs. C'est vrai qu'Auxerre, ça restera le club où j'ai vécu les plus belles émotions sportives. Et la relation avec le public, c'est très, 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 très sympa.
Alors, David a aussi trouvé, récemment, Giroud a livré son 11 de rêve, composé des joueurs de la Auxerre. Je sais pas si vous le connaissez, mais je vous le dis rapidement, dans les buts, il mettrait, Bats, ensuite, Sagna, Blanc, Boli et West, et après, en milieu de terrain, Lamouchi, Chifo et Martins, enfin devant Cissé, Zarmac et Cantona.
Quelle belle équipe,
hein. Ça serait une équipe de
technique, hein.
Qui pourrait jouer c'est Manchester mal, hein. United aujourd'hui.
Pas très équilibré, mais bon, et beaucoup de défenseurs axiaux, beaucoup d'attaquants axiaux aussi.
C'est le coach qui parle.
Mais oui, bien sûr que ça fait énormément plaisir de la part de Giroud de faire partie de ce 11 de rêve, parce que ce qu'il a, il a apporté énormément à ce club, il a obtenu beaucoup de succès et de faire partie, oui, bien sûr, Basile Boli avec Cantona, avec tous ces grands joueurs, c'est vrai que c'est sympa.
Patrick.
Et justement, en tant que jeune technicien, quel est votre modèle d'entraîneur et à quel point on peut appliquer une conception du football quand on est sélectionneur et donc qu'on a que une petite dizaine de matchs par an?
Déjà, on fait avec sa sensibilité, avec sa personnalité aussi. On peut pas faire du copier-coller.
Vous faites pas de marquage individuel, hein.
Non. À part sur les coups de pied arrêtés.
Sur le coup de pied arrêté. Il reste des trucs de Giroud, alors. Des tout petits trucs.
Mais, c'est vrai que, je m'appuie sur des choses que j'ai pu voir de coach, dans le management, des choses comme ça, mais on le fait, je le fais surtout moi avec mon instinct, avec ma sensibilité, et c'est vrai que moi ce que je veux, c'est que les joueurs prennent du plaisir sur les terrains, à l'entraînement, et quand ils viennent ensemble, qu'ils soient bien ensemble, quoi.
Hugo?
Oui, alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez été capitaine de la GOCR, capitaine à Strasbourg. Donc quand vous étiez joueur, vous aviez l'âme d'un leader. Pourtant, on a l'impression que vous avez mis du temps avant de devenir véritablement entraîneur, parce que vous avez été longtemps directeur sportif à Brest et plutôt intérimaire quand vous étiez sur le banc de touche. Et alors pourquoi avoir mis du temps à devenir pleinement entraîneur? Et question subsidiaire, pourquoi avoir tenté l'aventure en Afrique sur le banc de la Mauritanie?
Oui, c'est vrai que j'ai été souvent capitaine, que ce soit au Serre ou à Strasbourg. Après, par la suite, pourquoi j'ai pas poursuivi l'après-carrière footballeur, carrière d'entraîneur? Je savais pas trop où j'allais. Je savais pas si j'allais décider d'une carrière d'entraîneur. Je sais pas si j'y arriverais, en tout cas. Et puis, une autre chose aussi, c'est que j'avais des enfants en bas âge, j'avais pas envie de reprendre les valises. On sait très bien qu'un entraîneur, il peut rester 2, 3, 6 mois dans un club et partir. Donc j'avais envie un peu de stabilité. Et puis, c'est vrai que ma vie est faite un peu d'opportunités. Et le président du Stade Brestois, à une époque, m'a demandé de venir, de discuter un peu avec lui. Puis on est parti sur cette collaboration et qui m'a beaucoup plu. Et puis après, durant mes 6 années en tant que directeur sportif à Brest, par 3 fois, oui, je suis devenu entraîneur sur des courtes périodes. Et c'est peut-être ça qui m'a donné aussi l'envie de poursuivre. Même si quand j'ai quitté le Stade Brestois, je savais pas trop si j'allais poursuivre aussi dans la carrière d'entraîneur, c'est en fonction des opportunités, encore une fois. Mais en tout cas, quand j'ai été entraîneur dans ces périodes-là, j'ai retrouvé un peu l'adrénaline de ce que je connaissais quand j'étais joueur, quoi, dans la préparation du match, dans cette petite pression qu'on aime avoir. Et puis quand j'ai quitté Brest, j'ai eu sur cette opportunité de rencontrer le président de la fédération mauritanienne. On a eu des contacts, on s'est rencontrés, et puis voilà, c'était, j'ai envie de vous dire, il m'a tendu la main, parce que j'avais pas de carrière d'entraîneur derrière moi, et puis on est toujours là, donc je suis content. Je prends du plaisir avec mes joueurs, et c'est ça qui est important pour moi, c'est la relation entre les joueurs et moi.
Ben merci beaucoup, Corentin Martins, de nous avoir si longuement parlé de la Mauritanie et de votre travail avec les Morabitounes. Mais restez avec nous, parce qu'on va continuer à parler de football, et je pense que votre regard sur certains clubs ou certains joueurs de l'Hexagone sera intéressant.
Oh, le voilà. Le voilà, le premier but de l'OM, il est debout, Bakar Camara.
Y a-t-il quelqu'un de vivant? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut continuer à chercher, il faut continuer!
Oh mon Dieu, c'est pas vrai, ils l'ont fait!
Une victoire de Marseille hier soir, la première au Vélodrome depuis le 11 novembre dernier, mais personne donc dans les tribunes pour commémorer les 3 points pris hier soir sur la pelouse. Pas un chat, comme on dit, ou si plutôt un de nos confrères a mis sur Twitter la photo d'un chat, un joli chat noir et blanc.
Vous y êtes sensible, hein, Aline.
Qui s'est promené dans les tribunes vides du stade de l'OM, mais Franck aussi y est sensible.
Absolument.
Alors dans cette rencontre si particulière, le but du jeune Boubacar Camara, il n'a que 19 avant, eh bien, à délivrer cette équipe phocéenne face à des Girondins réduits à 10, on va dire. Et un soulagement, eh bien, pour...
D'ailleurs, un joueur d'origine mauritanienne.
J'attendais pour le dire, mais c'est vrai.
Qui a été... Qui a été victime du carton rouge.
Et mauritanien.
Non, Camara.
Le Marseillais.
Celui qui a été expulsé, c'est le Nigérian Bordeaux.
Métissé vietnamien mauritanien.
Ah oui, Camara, oui.
Mais né à Marseille.
Oui.
Hein, né à Marseille. Pour l'instant, en tout cas, marseillais. Et c'était un soulagement, vous allez l'entendre, pour l'entraîneur Rudy Garcia.
Une victoire réussie sans 6 titulaires. On voulait gagner, on veut toujours gagner et on voudra gagner les prochains surtout. Donc il faut que ce soit le début d'une série, c'est ça le plus important.
Le début d'une série. Est-ce que ce match peut être celui de la remontada de l'OM au classement? Patrick Juillard, je vous vois grimacer.
Je sais pas, le début d'une série, je pense toujours à Engrenage ou
Californication,
mais pas tellement à du football, non, mais plus sérieusement... Il y a quand même pas de quoi pavoiser. Hein. L'OM gagne devant une équipe de Bordeaux très faible. Hein, il faut souligner aussi l'adversaire. Tout ne dépend pas uniquement de l'OM, qui était réduite à 10 avant la demi-heure par l'exclusion du Nigérian Kalou, qui a fait un tacle non maîtrisé. Bon, ça aide quand même. Après, moi, je trouve que l'OM a eu le mérite de revenir à certains fondamentaux, c'est-à-dire placer les joueurs à leur poste préférentiel. Je pense à Camara en défense centrale. Je pense à Valère Germain dans un schéma à deux attaquants. C'est là qu'il excelle et c'est sur une de ces déviations que le jeune Camara marque le seul but du match. Après, il y a eu des intentions qui étaient meilleures que lors de matchs précédents. Le jeune Lopez au milieu a plutôt pris les choses en main de manière assez convaincante. De là à dire que ça y est, c'est le renouveau et le début d'une série, moi j'attends de voir. Hein. J'attends de voir.
Hugo.
Oui, simplement pour mesurer le chemin qu'il reste à parcourir, l'OM est à 9 longueurs du podium, mais il reste du temps, 15 rencontres à disputer en Ligue 1 pour les Phocéens, la prochaine à Dijon vendredi.
Attention, parmi ces 15 rencontres, l'OM va jouer l'Olympique Lyonnais, ça risque d'être un match très
l'actuel
important.
L'actuel 3ème justement.
Sachant qu'en plus, ces dernières saisons, ce choc des Olympiques a souvent tourné à l'avantage des Lyonnais.
Des Lyonnais, exactement. Philippe Doucet, cette équipe de Marseille, est-ce que, alors on l'enterre un peu à chaque fois, elle s'enterre aussi beaucoup hein, avec toutes ses défaites, mais est-ce que vous voyez quand même cette équipe se ressaisir?
En tout cas, hier, la première période a été intéressante. Ils n'ont jamais autant tiré au but, il y a eu pas mal d'occasions. Alors évidemment, c'était face à un adversaire qui n'est pas bien rentré dans le match, qui en plus a pris un rouge effectivement à la 26e minute. Bon, certes, mais malgré tout, dans l'état où était l'OM, je dirais que la première période était quand même très satisfaisante. Malheureusement, la deuxième a montré que les têtes étaient encore fragiles et qu'on a senti plus le match avancer, plus on sentait l'OM fragilisé. Et en ce sens-là, évidemment, la confiance ne va pas revenir en deux clics. Donc, effectivement, comme dit Rudy Garcia, disons que dans deux victoires, peut-être que l'état mental général fera que l'OM alignera les victoires naturellement. Aujourd'hui, il est quand même assez hasardeux de penser qu'elle va les aligner très naturellement.
Alors du positif, notamment, on le disait grâce aux jeunes ou aux remplaçants hier soir qui étaient titularisés, comme Valère Germain, vous le soulignez, le malchanceux devant les buts, hein, qui ne marque pas depuis le 26 septembre dernier face à Strasbourg, mais qui a délivré hier soir une passe décisive. Et à la fin du match, on sentait un joueur un peu soulagé.
C'est pas un secret de dire que j'apprécie jouer à deux attaquants. Après, depuis que je suis arrivé, on a joué dans un système à une seule pointe, de temps en temps à deux, mais quand on joue à cinq derrière. C'est vrai que ça me rappelle les belles années, notamment à Monaco et à Nice, où on jouait à deux attaquants et ça se passait plutôt bien. Je me l'imagine aussi et j'espère que le coach se l'imagine aussi. Ouais.
Franck, jouer à deux attaquants, ça voudrait dire que, par exemple, on mettrait Valère Germain à côté du grand attaquant que les Marseillais ont acheté, à côté de Super Mario?
Pourquoi pas? Pourquoi pas, comme le disait Patrick, si c'est sa position préférentielle, c'est celle-là où il s'exprime le mieux, ça peut être intéressant, mais après il faut trouver des repères tout de suite pour pouvoir combiner avec effectivement le nouvel arrivant qui n'était pas qualifié, donc à l'époque il y avait ce match. Mais moi ce qui me frappe un peu dans ce que j'ai entendu il y a quelques minutes, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément vu le même match, en tout cas sur la prestation de l'OM, c'est pas flamboyant. Mais vous mettez un autre gardien dans le but de Bordeaux, je suis pas sûr que ça fasse qu'un 0. Donc il y a aussi...
Vous pensez qu'ils auraient marqué plus de buts, c'est ça que Benoît Costil a été...
C'est juste un gardien international.
Été... En première période, oui.
Ouais, c'est juste un gardien international. Ouais, mais ça fait la diff.
Mais
ça
vous savez que Franck aime bien regarder les gardiens dans un match.
Non, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'ils ont gagné,
c'était... Costil, il vaut mieux qu'on n'en parle pas trop sur cette saison. Quoi. Hier, il était bon. Mais enfin, bon...
Faut le dire quand il est bon.
Oui, il faut le dire parce qu'il a été assez médiocre depuis le début de la saison. Donc faut le dire.
C'est pour ça qu'il faut balancer le... Faut être équilibré. dans son analyse.
C'est à double tranchant, puisqu'effectivement, je trouve qu'il a été bon, mais il a un peu aussi caché la misère défensive de Bordeaux, quoi.
Dieu merci.
Pour, oui,
mais ça veut dire aussi
que Bordeaux était faible.
Ouais, mais tu reconnaîtras avec moi que c'est pas non plus un Marseille qui était, ils étaient pas les deux pieds dans le même sabot. Ils ont tenté des choses, ils ont proposé du football. C'est pas parfait, loin s'en faut. Mais en plus, on parle d'une série qui n'existe pas encore, mais ils ont mis fin à une série, et une mauvaise série. C'est un début. Donc, moi, je suis à la place du coach, j'essaye de positiver. Tu positives sur quoi? Une victoire, t'as marqué, t'as pas encaissé de but, t'es tombé sur un super gardien. En face, ils étaient à 10 contre 11, ils avaient peut-être un peu l'écrou. À défaut d'être bons, parce qu'ils ont pas été bons, mais voilà, ils les ont quand même empêchés de s'exprimer. Et ils étaient pas, on peut pas dire qu'ils aient été perturbés par le public, ni l'équipe qui visitait, ni l'équipe qui jouait à la maison.
On va y venir à ce huis clos. Corentin Martins, on le sait, là, ces derniers temps, les supporters sont vent debout contre l'entraîneur, contre Rudy Garcia. C'est compliqué dans ce cas-là de maintenir sa ligne, de maintenir sa voix et d'essayer de s'en sortir et de sortir une équipe quand même d'une sacrée ornière en ce moment.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui les entraîneurs sont prêts à faire face à ça. On le sait que quand il n'y a pas de résultat, c'est l'entraîneur qui saute. Donc je pense qu'il faut...
Justement, là, le fait de se maintenir, d'être maintenu, est-ce que ça complique sa tâche?
Aujourd'hui non, parce que aujourd'hui il a un contrat. Ce qu'il veut, c'est obtenir des résultats, c'est gagner des matchs. Et après, c'est de trouver la bonne formule, faire les bons choix. C'est de tirer les joueurs dans la direction qu'ils souhaitent, mais que ce soit la bonne aussi. Et c'est vrai que de jouer ce genre de match hier, c'est vrai que j'ai entendu ces propos. C'est quand on gagne pas, c'est très difficile. Quand on commence à gagner, on sait que c'est difficile d'y parvenir. Et le fait d'avoir gagné, c'est quelque chose de positif, et dans des conditions qui sont pas faciles non plus. De jouer dans un stade vide.
Il avait ouvert le parapluie, hein. Il manquait 6 joueurs. Même
ça, j'ai pas tout entendu.
Mais c'est ce qu'il vient de dire.
D'accord.
Il manquait 6 joueurs. Oui. Il ouvre le parapluie malgré tout, quoi. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient perdu?
Oui.
Voilà.
Mais encore une fois, quand on gagne, c'est ce qu'il y a de plus important pour un entraîneur. Et après, c'est de continuer à travailler.
Voilà pour ce qui est donc de cette équipe de Marseille qui a finalement réussi à l'emporter hier sur le score de donc 1-0, mais un but qui coûtait beaucoup en points, en nombre de coins, les fameux 3 points. Il y a 2 mois maintenant qu'Adrien Rabiot est peu visible ou invisible. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été puni par ses dirigeants qui l'ont mis au banc de l'équipe et l'ont même envoyé en équipe réserve avant de le ramener sous la pression du règlement rappelé par le syndicat des joueurs, l'UNFP. Pourtant, le PSG manque toujours de milieu de terrain, d'un milieu solide en tout cas. Et rappeler Adrien Rabiot ou pas, c'est un peu la question qu'on pose pratiquement à chaque fois, sans doute en conférence de presse, à Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui, hier, voulait rester prudent et répondait ceci.
Je n'ai rien à dire parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est la même situation. La situation est la même situation.
Il veut le rappeler ou pas, lui, vous pensez,
Ich habe gesagt, Philippe.
Vous qui parlez allemand. Est-ce qu'il n'a pas le choix? Est-ce qu'il ne peut pas le dire non plus?
Il a clairement dit qu'il n'avait pas le choix. Il a clairement dit, il a annoncé très clairement, il s'est, à mon avis.
On lui donne pas le choix.
Il a bien fait de prendre cette distance, de dire que le club, lui avait demandé de ne pas le prendre et que bon, il respectait la décision du club. Mais on sait, de cette manière, il a clairement dit que ce n'était pas la sienne. Évidemment que commencer la saison déjà avec 2 milieux de terrain, c'est quand même assez rare. Je pense que Corentin Martins, quand il fait une liste des 23, il prend, je sais pas, 5, 6 ou 7 milieux de terrain. On est d'accord, Corentin?
Oui, bien sûr.
Surtout de la part d'un ancien milieu de terrain.
Non, mais comme tout sélectionneur. À la Coupe du Monde, vous prenez toutes les sélections, c'est entre 5 et 7. Bon, le Paris Saint-Germain a débuté la saison avec 2 milieux de terrain. Ils en ont perdu un en route, par choix personnel, c'est en estimant que il n'avait pas, que Rabiot n'était pas un type bien et que donc il fallait pas le prendre. Donc ils sont passés à 1 milieu de terrain, qui s'est blessé. Donc ils sont passés à 0. Bon, ils en ont recruté un, l'Argentin Paredes. Donc il y en a un compétitif, je parle.
Ils ont failli le perdre il y a quelques jours.
Ils ont failli le perdre d'ailleurs sur l'attaque de Fekir.
De Fekir, ouais.
Donc c'est assez ubuesque. C'est quand même très étonnant. Alors pour autant, pour la question de fond, faut-il rappeler Rabiot? Moi, je pense qu'ils auraient dû gérer la situation autrement, mais aujourd'hui...
Oui, c'est sur la place publique,
si pratiquement. Si vous voulez rappeler Rabiot pour Manchester, je suis désolé, c'est trop tard. Le type, il n'est pas dans le coup.
Bon, il y a deux matchs.
Il n'est pas préparé.
Il y en a le 12 avril, mais il y en a le 6 mars.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas
puis
comme ça.
Il en a joué
c'est
d'autres des matchs de Ligue des Champions.
Mais c'est pas comme ça qu'on gère. Enfin, c'est assez ahurissant.
Écoutons-le, Thomas Tuchel, c'était juste après les matchs face à Liverpool, quand il encensait son milieu de terrain.
J'aime qu'il est, quand il est sur le terrain avec nous, parce qu'il peut jouer très physiquement pour nous, il peut défendre très très bien pour nous, et qu'il est très très important.
Il l'appréciait beaucoup, Adri, comme il aime bien dire, hein, Adeline, et on s'est habitué un peu au surnom de l'équipe du PSG.
Oui, il l'appréciait beaucoup, comme il appréciait beaucoup Verratti.
Ouais, pourquoi l'imparfait? Il l'apprécie encore, je
pense. Il l'apprécie encore.
Oui, enfin, il l'appréciait quand il le mettait dans l'équipe titulaire.
Il y a eu des soucis disciplinaires aussi.
Il n'est plus dans ses plans possibles.
Ça veut quoi dire qu'il
la composition d'une équipe. Ouais. Non, mais je dis il l'appréciait dans cette déclaration. Moi, je suis un petit peu circonspect là-dessus. Je pense que ça fait très longtemps, et au-delà du Carabio, que le PSG travaille mal sur ce poste. Depuis la retraite annoncée de Thiago Motta, qui n'avait pas été anticipée, le PSG s'est ensuite séparé de Blaise Matuidi, qui, bon, soi-disant, n'apportait pas une plus-value technique. Donc, bon, c'est pas grave, on peut le vendre, il n'y a pas de problème.
Il est juste titulaire à la Juve, quoi.
La Sana Diarra, ensuite, ils ont quand même senti vaguement qu'il y avait un petit manque. Donc, l'hiver dernier, il y a un an, ils ont recruté la Sana Diarra pour son expérience, et finalement ils l'ont très peu utilisé.
Mais ils sont tous les deux sur la liste salarié du de club. La Ligue des Champions. Hein.
Il est sur la liste, mais il ne joue jamais. Bah oui. Il a un temps de jeu égal à zéro.
Lui, on a du mal à l'imaginer.
Que fait le PSG dans ce dossier, quoi. C'est quand même incroyable.
Franck,
Ça fait trois, en gros, globalement.
Deux saisons, à peu
si
près.
Si on considère que la retraite de Motta a été annoncée, ça fait en gros deux mercato consécutifs que le PSG ne fait rien.
Si c'est pas mercato, trois, même.
Ouais. Moi, j'ai une idée. J'ai une idée, Annie, je vais vous la soumettre. Il y a deux profils qui peuvent être intéressants pour le PSG. C'est Formiga et Grassonema Gioro. La brésilienne et l'internationale française du Paris Saint-Germain, elle porte le maillot du Paris Saint-Germain. Il y en a une qui est la capitaine du PSG et l'autre qui est une joueuse importante de l'équipe de France. Elles sont tout à fait disponibles si le PSG a des problèmes de milieu de terrain, puisque visiblement les hommes font pas l'affaire.
La parité, finalement, qu'on donne
leur chance à des joueuses et puis elles font bien le boulot. Non, mais c'est totalement ubuesque, c'est du grand n'importe quoi. On peut que se moquer de ce qui se passe, parce qu'en fait, l'équipe, elle est prise, le groupe, il est pris en otage de la façon. Le joueur, n'en parlons même pas. L'entraîneur, il peut rien dire. On a bien entendu sa déclaration. Et les dirigeants, imagine qu'ils reviennent. Imagine que Rabiot revienne.
Ouais, voilà, dans quelle mentalité, c'est ça, dans quel état d'esprit.
Tu penses qu'ils vont perdre la face, les.
Bah, oui. Pire que ça.
C'est horrible. Vous le prendriez dans votre équipe de Morabitoun, Adrien Rabiot, pour la charge.
Je reviens un petit peu sur tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a eu un problème au sein du club. C'est dans les choix, dans la préparation, dans l'après.
Mais c'est ce que disait Patrick.
Oui, tout à fait. Après la Thiago Motta, ou bien sûr qu'un du recrutement, ça se prépare longtemps à l'avance. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer.
Et pas là, il pourrait pas venir, Corentin.
Il y a Guy Delay qui a signé en D2 turc. Hein. Sinon, il aurait peut-être pu.
Moi, je pensais à Gaï Palaï.
Hugo,
de la Mauritanie. Pour venir.
Depuis que les Qatariens sont arrivés, il y a une tradition de flop dans ce secteur-là du jeu. On pense au Malien Sissoko, on pense à Kabaï, on pense à Krychowiak. Beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à prendre leur place dans cette.
On peut ajouter la vente.
Entre-jeu parisien et
la vente
également.
De Lo Celso au Betis Séville, alors qu'il aurait pu rendre des services quand même, ce jeune argentin.
Bah, c'est un très bon joueur.
Surtout pour acheter Paredes au profil.
Qui est un bon joueur aussi, quand même.
Ressemblant.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Corentin Martins, merci beaucoup d'être venu dans Radio Foot International.
Et
vous êtes prêté au jeu.
Bravo.
Allez, les Morabitoun, on sera derrière vous à la prochaine CAN, derrière vous notamment, et on se verra peut-être au tirage au sort. Merci à tous, merci à David Finzel et à Julien Magouarou qui étaient à la réalisation. Et on vous dit, bien sûr, à demain.